Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Alors cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener une vie juste et sainte que produit la vérité. C'est pourquoi, débarrassé du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains, pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance. De la délivrance finale, pardon. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Alors vous vous souvenez qu'au début de ce chapitre 4, Paul a exhorté ses lecteurs des églises de la province romaine d'Asie à marcher d'une manière digne de l'appel qui leur a été adressé. Cette dignité devait se manifester par une unité visible entre les membres de l'Église, cette visibilité se manifestant par un amour fraternel sans faille et concret. Unité favorisée également par la diversité des dons donnés par le Seigneur à son Église qui tous contribuent à la croissance spirituelle de chaque membre. Ces dons étant des hommes, des apôtres, des prophètes, des prédicateurs de l'Évangile, des pasteurs et enseignants. Mais, de même que nous sommes appelés à former un seul peuple, nous sommes aussi appelés à former un peuple saint, comme le Seigneur lui-même est saint. Lévitique 11, 44 « Je suis l'Éternel votre Dieu. Comportez-vous en gens saints et soyez saints, car je suis saint, et ne vous rendez pas impurs. » Au même titre que l'unité, la pureté est une caractéristique du peuple de Dieu. À partir du verset 17, Paul va entrer dans le concret par une parole revêtue de son autorité apostolique, de toute son autorité apostolique. « Ce que je vous le dis au nom du Seigneur, » dit Paul. On voit encore combien, une fois, combien les apôtres avaient conscience d'être les porte-paroles directes du Seigneur. Son injonction est que les chrétiens auxquels il s'adresse ne doivent plus vivre comme les païens, c'est-à-dire les non-chrétiens. Dans la province romaine d'Asie, il n'y avait pas que des païens. Il y avait aussi une minorité juive, mais beaucoup de ces juifs se sont opposés à l'enseignement de l'apôtre. Ce qui caractérisait les païens de cette époque, c'était l'adoration de multiples divinités, matérialisées par des idoles, adorées dans des temples qui leur étaient dédiés. Et surtout, aussi, une dépravation morale terrible. Ce qui n'était pas le cas des juifs, gardés de cette dépravation par la loi de Moïse, que tout juif pieux s'efforçait d'observer. Le tableau de la situation spirituelle et morale des païens qu'en fait Paul à son époque n'est guère différent de celui de la nôtre. Sur le plan spirituel, leurs pensées sont vides de sens et leur intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu par ignorance, mais aussi à cause de l'endurcissement de leur cœur. Cela signifie qu'ils excluent le Dieu vivant et vrai de leur façon de penser, de leur façon d'appréhender le monde et le sens de leur vie, et aussi de la façon dont ils se comportent sur le plan moral. En clair, ceux de nos contemporains, tout comme ceux de l'époque de Paul, qui ne reconnaissent pas la seigneurie du Dieu vivant, le Dieu qui s'est révélé par sa création et par sa parole écrite, quel que soit leur degré de sophistication intellectuelle, font fausse route quant à la vérité de Dieu. Les scientifiques peuvent continuer à faire avancer la science, faire de belles découvertes. Ce n'est toutefois rien d'autre que découvrir la sagesse et l'intelligence immense du Créateur. Mais en laissant le Dieu vivant en dehors de leur champ de pensée, ils sont conduits, inévitablement, à échafauder des théories spéculatives, certes séduisantes pour l'intellect, mais souvent erronées et rapidement remplacées par d'autres au gré des découvertes ou des modes intellectuels. Je donne quelques exemples de cet obscurcissement de l'intelligence. La théorie darwinienne de l'évolution, qui fait autorité dans la plupart des milieux scientifiques et qui s'impose jusque dans les manuels scolaires, alors qu'elle n'est qu'une théorie totalement spéculative. J'ai bien dit la théorie darwinienne, c'est-à-dire la théorie qui prétend expliquer l'origine de toutes les espèces animales, y compris l'homme, par le jeu des adaptations à l'environnement et de la sélection naturelle. C'est cela, la théorie de Darwin. Les généticiens chrétiens, respectueux de la parole de Dieu, ne nient pas l'existence de mutations mineures au sein d'une espèce, mais s'opposent à la théorie de Darwin qui prétend donner une explication à la totalité du règne animal, ce qui permet d'éliminer le rôle d'un créateur. Ceux qui osent mettre en évidence le caractère spéculatif de cette théorie sont taxés d'obscurantistes. Une conférence tenue par des scientifiques chrétiens a été tenue à Mulhouse à l'automne dernier, conférence très intéressante qui a démontré à quel point la théorie de l'évolution repose sur des bases fragiles et sur des hypothèses non vérifiées. J'ai l'intégralité des vidéos de cette conférence sur une clé USB et on pourrait un jour la visionner ensemble pour ceux qui sont intéressés par ces questions. Mais le plus étonnant, c'est que certains de ces errements pseudo-scientifiques ne sont pas sans conséquences morales, comme par exemple la théorie du genre, qui est en contradiction flagrante avec la parole de Dieu. Cette théorie se targue du qualificatif de scientifique, alors qu'elle est en fait de nature philosophique et ne repose sur aucun fait biologique démontré. Celle que tout le monde reconnaît comme la promotrice de cette théorie s'appelle Judith Butler. C'est une philosophe américaine, professeure d'université, qui vit en couple avec une femme, elle-même professeure d'université. En gros, cette théorie dit que le sexe réel d'une personne lui est attribué par la société, par son éducation. Le sexe génétique qui fait d'un individu biologiquement un homme ou une femme n'est qu'une apparence physique, alors que le véritable sexe est d'ordre psychique. D'où les problèmes d'ambiguïté sexuelle psychologique que l'on peut rencontrer selon cette théorie. Cet obscurcissement de l'intelligence conduit à la perte de tout sens moral, dit Paul, avec pour conséquence que les païens se livrent à toutes sortes de vices. Paul en fait la description dans l'Épître aux Romains au chapitre 1, les versets 22 à 28, où il fait nettement le lien entre l'adoration de faux dieux et la dépravation morale, notamment sexuelle. J'en lis juste un court extrait. Il parle donc des païens. « Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. » Et Paul qualifie de honteux les comportements homosexuels, tant masculins que féminins. Si Paul vivait de nos jours et tenait de tels propos, il tomberait sous le coup de la loi française au nom de la discrimination. En fait, le lien, par exemple, entre l'idolâtrie et l'homosexualité, c'est l'adoration du semblable et non du différent sexuellement, ce qui est contraire à l'ordre naturel institué par Dieu. Alors au verset 20, Paul dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, littéralement. » Paul a enseigné ces païens devenus chrétiens pendant les 3 ans au moins qu'il a passé parmi eux à Éphèse. Il n'ignore pas l'enseignement de Jésus transmis par l'apôtre. Mais ils vivent au milieu d'autres païens qui se comportent, bien sûr, selon des standards très différents. Les chrétiens sont en danger d'être influencés par ces standards de vie. Alors Paul use d'une métaphore. Ils ont à se débarrasser de leur ancienne manière de vivre comme on quitterait un vêtement souillé et à revêtir un vêtement saint qu'il appelle l'homme nouveau, en contraste avec le vieil homme. Cet homme nouveau est une véritable nouvelle création, un homme conforme à la pensée de Dieu, qui se comporte de façon juste et sainte, conformément à la vérité. Cela implique que le comportement du vieil homme n'est pas selon la vérité. Par vérité, il faut bien sûr entendre la vérité de Dieu, qui n'est pas celle de spéculations scientifiques ou philosophiques humaines. Ce revêtement de l'homme nouveau a des conséquences très pratiques, que Paul aborde à partir du verset 25, conséquences notamment dans l'Église. Verset 25, c'est pourquoi, débarrassé du mensonge, comme on se débarrasse d'un vieux vêtement, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Là, Paul cite un prophète de l'Ancien Testament, c'est Zacharie, chapitre 8, verset 16, qui dit, voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Dans ce texte, le prophète parle du rétablissement futur de Jérusalem. Pour Paul, c'est dans l'Église de Jésus-Christ que se réalise cette annonce, parce que l'Église, pour Paul, c'est le nouveau temple de Dieu qui, historiquement, était à Jérusalem. Pour chacune des questions que Paul va aborder, il va donner des recommandations sur ce qu'il ne faut plus faire, l'élément négatif, et sur ce qu'il faut rechercher, l'élément positif. À la place du mensonge, la vérité. Motivation, ne sommes-nous pas membres les uns des autres? L'obligation éthique de dire la vérité à son prochain est typiquement chrétienne, mais bien sûr, elle doit être dite dans l'amour. Verset 26. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Là encore, Paul cite l'Écriture, c'est le psaume 4, verset 5, « Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil, ne donnez aucune prise au diable », rajoute Paul. Alors il ne faut pas prendre ce « mettez-vous en colère » comme un impératif. C'est plutôt une concession. Dieu nous a créés comme des êtres émotifs et donc susceptibles de se mettre en colère. Mais si cette colère ne s'est pas apaisée avant le coucher du soleil, c'est-à-dire si elle crée une rancune tenace, alors le péché n'est pas loin. Et là, c'est le diable qui a gagné. La colère qui fait place à la rancune est très dangereuse pour les relations fraternelles. Elle l'est également avec notre conjoint. D'autant que notre colère, contrairement à celle de Dieu, est bien souvent une colère injuste. Verset 28. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Alors le vol n'est pas seulement le fait d'accaparer ce qui appartient à autrui, il prend aussi des formes plus subtiles de nos jours comme la fraude fiscale, le travail au noir, la fraude de la sécurité sociale ou le fait de sous-payer ses ouvriers. Ce sont toutes des formes de vol qui peuvent atteindre des sommes considérables et qui toutes lèsent forcément quelqu'un, que ce soit l'État, la sécurité sociale, le subalterne, etc. Injonction positive, travaillez honnêtement. Vous aurez la joie de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. C'est l'inverse de la cupidité qui veut tout pour soi. La cupidité fait partie des mauvaises choses qui sortent du cœur de l'homme et le rendent impur, selon le discours de Jésus en Marc 7, versets 20 à 23, où il parle de tout ce qui sort du cœur de l'homme et qui rend l'homme impur. Verset 29. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi elles feront du bien à ceux qui vous entendent. À la place des mauvaises paroles, des paroles empreintes de bonté. Aucune parole malsaine ou malveillante ne devrait être prononcée entre chrétiens. Est-ce que ce que je m'apprête à dire est utile ? Est-ce que cette parole va faire du bien ou au contraire blesser et causer du tort ? Peut-être connaissez-vous l'histoire des trois tamis de Socrate. Quelqu'un connaît ? Alors c'est Socrate, hein, c'est pas la parole de Dieu. Mais il a écrit un truc très intelligent que je vais vous lire. Un jour, un homme vint trouver le philosophe Socrate et lui dit « Écoute Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit. » « Je t'arrête tout de suite, » répondit Socrate. « As-tu songé à passer ce que tu as à me dire au travers des trois tamis ?» Et comme l'homme le regardait d'un air perplexe, il ajouta « Oui, avant de parler, il faut toujours passer ce qu'on a à dire au travers des trois tamis. Voyons un peu. Le premier tamis est celui de la vérité. As-tu vérifié que ce que tu as à me dire est parfaitement exact ?»« Non, je l'ai entendu raconter. » »« Bien. Mais je suppose que tu l'as au moins fait passer au travers du second tamis, qui est celui de la bonté. Ce que tu désires me raconter, est-ce au moins quelque chose de bon ?» L'homme hésita, puis répondit « Non, ce n'est malheureusement pas quelque chose de bon, au contraire. »« dit le philosophe. « Voyons tout de même le troisième tamis. Est-ce utile de me raconter ce que tu as envie de me dire ?»« Utile ? Pas exactement. »« Alors n'en parlons plus, dit Socrate. Si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère l'ignorer. Et je te conseille même de l'oublier. » Comme quoi, la sagesse humaine nous montre parfois que l'homme a bien été créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas ? Et que malgré sa dépravation, il en reste quelque chose. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. un verset assez court, mais dans lequel il y a beaucoup de choses. D'abord, une preuve supplémentaire que le Saint-Esprit est une personne. Pas simplement une puissance, mais une personne puissante. On n'attriste pas une puissance. Et Paul nous dit que par cet esprit, Dieu nous a marqués de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Paul reprend là ce qu'il avait déjà dit au chapitre 1, au verset 13. « C'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. » Le sceau que l'acheteur a posé sur une marchandise indiquait le changement de propriétaire. L'Esprit Saint est le sceau par lequel Dieu marque sur nous que nous lui appartenons. Alors pourquoi pour le jour de la délivrance finale, cette mention nous parle du jour du Seigneur, événement que la Bible situe à la fin des temps. Ceux qui appartiennent à Christ seront épargnés de la destruction des méchants parce qu'ils sont marqués du sceau de Dieu, image empruntée à des prophéties, notamment celle d'Ézéchiel 9, et qui est reprise par l'apôtre Jean en Apocalypse 7 et 14. Je vous ferai passer le texte de ma prédication, comme ça vous pourrez vérifier par vous-même ces textes prophétiques. Mais ce qui est important, dans le contexte de ce passage de la lettre de Paul, c'est de se rendre compte que Dieu est présent dans nos relations fraternelles. Lorsque je me laisse aller à dire une mauvaise parole, je n'attriste pas seulement le frère ou la sœur auquel je m'adresse, j'attriste premièrement le Saint-Esprit de Dieu. Ce que nous faisons subir aux autres, nous le faisons subir aussi à l'Esprit. Le prophète Ésaïe, parlant des Israélites qui se sont rebellés, dit en Ésaïe 63, la même expression, « Mais eux, ils se sont rebellés et ils ont attristé son Esprit Saint. » Vous voyez que même dans l'Ancien Testament, il y avait bien la conscience de l'Esprit Saint et qu'on pouvait l'attrister. Verset 31, « Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. » Cette phrase se passerait de commentaire. Notons simplement que les cinq termes vont crescendo depuis l'amertume, l'irritation et la colère qui sont intérieurs et que seul le Saint-Esprit entend, jusqu'aux éclats de voix et aux insultes que tout le monde entend et qui souillent l'Église. L'apôtre s'empresse de mentionner l'aspect positif de son exhortation, verset 32, « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le Seigneur a illustré ce principe par la parabole très parlante rapportée en Matthieu 18, 23 à 35. Un homme devait 60 millions de pièces d'argent à son souverain. Il supplie ce dernier de patienter jusqu'à ce qu'il puisse lui payer sa dette. Pris de compassion, le roi efface la totalité de la dette. Cet homme, très peu de temps après, saute à la gorge d'un concitoyen qui lui doit une petite somme et refuse de patienter et le livre à la justice. L'affaire vient aux oreilles du roi qui, dans son indignation, livre à son tour à la justice celui dont il avait remis la dette. Et le Seigneur ajoute à cette parabole, « Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. » Chapitre 5, les deux premiers versets, « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » Vous voyez que l'apôtre n'hésite pas à qualifier ses lecteurs du terme d'enfants bien-aimés de Dieu. Ils ont certes besoin de faire des progrès pour être conformes à l'image de leur Seigneur, ce qui est le projet même de Dieu. Mais cela ne remet pas en cause leur statut d'enfants bien-aimés, appelés à suivre l'exemple de leur Père Céleste. En d'autres circonstances, Jésus n'a pas hésité à dire à ses contradicteurs juifs, on voit ça en Jean 8, « Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. » On voit que la distinction est très claire entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les versets 3 à 5. « Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, c'est-à-dire la cupidité, qu'il n'en soit même pas question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. » Cela signifie-t-il que les chrétiens sont censés être dépourvus de toute forme d'humour? Certainement pas. Mais il convient à leur qualité de membres du peuple saint de se garder de toute plaisanterie de salle de garde. À la cafétéria de l'hôpital où je travaillais, nous prenions souvent nos repas entre médecins. Et il arrivait que des plaisanteries de ce type viennent dans la conversation. Un collègue, gynécologue, chrétien d'origine libanaise, s'est offusqué de la façon dont notamment ses collègues parlaient des femmes. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il a dit, mais en substance, il leur a dit « Vous n'avez pas honte de parler ainsi des femmes. » Ça a quand même jeté un froid. Ça m'avait frappé et fait honte en même temps, car moi, je n'avais pas eu le courage de réagir à ces propos orduriers. L'apôtre Jacques a bien raison quand il écrit « La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Allumé au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. » Le verset 5 est solennel, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. L'immoralité et les pratiques dégradantes, ce sont les péchés d'ordre sexuel dont on a déjà parlé. La sexualité est un merveilleux cadeau de Dieu, mais dans le cadre prévu par lui, c'est-à-dire exclusivement entre un homme et une femme, et exclusivement dans le cadre du mariage. Vous constatez que Paul qualifie la cupidité, ou soif de posséder, d'idolâtrie. C'est idolâtrer l'argent, les possessions. Jésus a bien prévenu en Luc 16, « Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Comprenez bien que Jésus ne condamne pas une saine gestion de notre argent, mais la place qu'il peut prendre dans nos préoccupations peut aller jusqu'à une forme d'idolâtrie. Ça, c'est incompatible avec l'Esprit Saint vivant en nous. Pour terminer, j'emprunte à Dominique Anger, le prédicateur canadien, la vérité centrale de ce passage dans sa prédication intitulée « Soigner nos relations dans l'Église ». Alors voilà cette vérité centrale. Paul nous exhorte à mener une vie communautaire saine et faite d'attitudes, de comportements et de paroles qui honorent le Père, le Fils et le Saint-Esprit.